Et ce matin, nous allons regarder des versets 18 à 22. Marc chapitre 2, des versets 18 à 22. C'est la question qui est venue des gens concernant le jeûne. Verset 18, Marc chapitre 2. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux le sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coude une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce du drap neuf emporterait une partie de vieux, et la déchirure sera pire. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Nous avons remarqué au fur et à mesure dans la progression de notre temps dans le livre de Marc que nous constatons un intérêt grandissant pour Jésus de la part des gens ordinaires. Ils étaient étonnés par les guérisons et frappés par les enseignements de Jésus. Jésus enseignait avec autorité. Mais nous avons aussi vu que les chefs religieux s'intéressent aussi à Jésus. Sa popularité les inquiète et ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses concernant ce qu'il a dit. Ils avaient beaucoup de questions pour Jésus et voyant sa renommée, au début, il ne veut pas même questionner Jésus ouvertement. Par exemple, vous pouvez voir avec ce temps où Jésus a guéri la paralytique et il a dit, tes péchés sont pardonnés. Dans Marc chapitre 2, verset 6, il se disait au-dedans d'eux. C'est-à-dire, il n'était pas prêt à poser Jésus des questions, mais il se disait au-dedans d'eux, mais comment cet homme parle ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Quand Jésus était à table plus tard avec les publicains, les gens de mauvaise vie, au lieu de lui questionner, il s'adresse la question aux disciples de Jésus. Il dit à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Au verset 18 encore, les leaders prennent le courage, mais ce temps, ils parlent directement avec Jésus. Et nous venons d'écouter ces questions, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? La même chose au verset 24, les pharisiens sont venus pour lui demander encore, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le sabbat? Et nous voyons au fur et à mesure que ils sont en train d'écouter les réponses de Jésus, mais ils deviennent de plus en plus forts dans leur opposition à Jésus. Et nous voyons déjà dans chapitre 3, verset 6, ils se consultèrent pour savoir comment le faire périr. Nous voyons que leur conception, les leaders juifs, leur conception, leur compréhension de la volonté de Dieu était différente de la volonté vraiment de Dieu en Jésus-Christ. Au lieu de changer leurs idées, ils ont resté et résisté. Et enfin, au lieu de faire la volonté de Dieu, ils se trouvent en train de résister Dieu. Et le texte que nous venons de lire ce matin est un exemple parfait de ce qui se passe avec ceux qui résistent la volonté de Dieu. Nous avons tous des idées qui ne sont pas correctes, mais souvent, au lieu de changer, qu'est-ce qui se passe? Nous continuons dans l'ignorance de ce que c'est la volonté de Dieu. Si on ne change pas, on risque de poser la volonté de Dieu pour notre vie. La question posée à Jésus était une question importante. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? La question était très importante pour les pharisiens et aussi pour les disciples de Jean qui étaient là pour poser cette question. Les deux groupes étaient là. Et nous allons voir la réponse de Jésus, mais comme c'est une question aussi importante pour nous aujourd'hui concernant le jeûne, j'aimerais regarder avec vous ensemble ce que la Bible enseigne concernant le jeûne. Et nous allons voir que l'Ancien Testament parle de la jeûne et le Nouveau Testament aussi, mais heureusement, il n'y a pas un très grand nombre de versets concernant le jeûne. Et alors, nous allons prendre dans la première partie du message ce matin juste un aperçu, un survol de ce que la Bible dit concernant le jeûne. Et après, nous allons voir la réponse de Jésus concernant cette question, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas. Alors, première partie du message, on va prendre le temps de regarder ce que la Bible dit concernant le jeûne. Et deuxième partie, nous allons regarder la réponse directe de Jésus, pourquoi les disciples ne jeûnent pas. Alors, regardons l'Ancien Testament maintenant. Quand on regarde tout l'Ancien Testament, nous voyons que pour les Juifs, il y avait seulement un jour qui était exigé pour le jeûne. C'était le jour d'expiation. Même là, ça ne dit pas qu'il fallait faire le jeûne, ça dit une autre phrase. Vous humilierez vos âmes. Le jour d'expiation, c'était un jour où il devrait humilierait vos âmes. Et bien sûr, c'était souvent accompagné par le jeûne, mais ce n'était pas exigé. Après la destruction de Jérusalem et dans leur captivité en Babylone, les leaders religieux ont institué 4 jours de jeûne. Et c'était établi dans le quatrième mois, le cinquième mois, le septième mois et le dixième mois. Nous voyons ça dans Zacharie chapitre 7 et chapitre 8. Ce qui était important pour eux, c'était quand Jésus les a parlé concernant ce jeûne. Écoute ce que Dieu a dit concernant ce jeûne. Regarde, écoute ce que Dieu a dit dans Zacharie chapitre 7. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pris le deuil au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, il pose la question, Dieu pose la question, est-ce vraiment pour moi que vous avez tant jeûné? Est-ce pour moi? Vous voyez, avant même de commencer le jeûne, un jeûne, il faut savoir si vraiment pour Dieu, si c'est pour lui que vous faites le jeûne. C'est-à-dire que le jeûne est un temps pour chercher Dieu et sa volonté, et c'est pour lui qu'on fait cela. Nous voyons aussi dans l'Ancien Testament que certains gens ont cherché Dieu à travers le jeûne. Daniel, chapitre 9, verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et le cendre. Alors je tournais ma face vers Dieu. David aussi, vous vous souvenez, il y avait eu un temps où un de ses enfants était en train de mourir et il implora Dieu pour ce garçon et il a entrepris de jeûner. Et nous voyons aussi dans les psaumes que David avait l'habitude de jeûner et il a dit concernant ses amis quand ils étaient malades, je revêtis un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Alors nous voyons son attitude de prier par le jeûne pour ceux qui étaient malades. Nous voyons aussi que toute la nation d'Israël avait eu des temps où ils ont voulu jeûner. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 3. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour toute Juda. Nous voyons aussi Esther, là où elle était dans un point de danger pour lui, mais aussi pour tout le peuple. Elle a demandé aussi que les gens fassent la prière avec le jeûne. Anne aussi est dans l'Ancien Testament. Elle était dans la détresse, tristesse à cause de sa infertilité. Elle a pris aussi le temps de jeûner. Aussi, nous voyons quand les gens, avant de faire un voyage qui était pris avec les dangers, nous voyons Ezra a voulu l'aide de Dieu et il a demandé Dieu de le garder avec les jeunes. Néhémie aussi a la nouvelle qu'il y avait eu certains Juifs qui ont voulu aussi arrêter l'œuvre que Dieu a voulu commencer. Il a pris le deuil, il a jeûné, et il a prié devant le Dieu des cieux. Il était triste quand il a entendu aussi les problèmes qui étaient là face à Jérusalem. Il a prié par le jeûne. Daniel aussi, nous voyons, dans Daniel 10, il a dit, il a précisé, « Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entre ni viande ni vin dans ma bouche. » Et voilà, Dieu a répondu à sa prière. Et l'ange est même venu pour dire que voilà, depuis le temps où tu as commencé à prier. Et nous voyons pendant ce temps, Daniel même a fait le jeûne. À la mort de Jonathan et Saul, les gens ont pris le jeûne. Et c'était aussi un temps pour la repentance. Nous voyons les gens de Ninive. Ils ont tous été dans le jeûne à cause du fait que dans 40 jours, leur ville sera détruite. Le peuple de Dieu aussi était appelé à jeûner avec la repentance. Alors, quand nous regardons tous ces passages, nous voyons que dans l'Ancien Testament, le jeûne était un temps pour les gens de chercher Dieu dans leurs difficultés, dans leur détresse, et c'était un temps de chercher la faveur et de chercher la volonté de Dieu. La durée du jeûne, c'était souvent jusqu'au soir. Nous voyons cette phrase. Jusqu'au soir, ils ont fait cela. Mais parfois, on a, par exemple, Esther qui a fait un jeûne pendant 3 jours, Daniel 3 semaines, Moïse 40 jours. Alors, le temps n'était pas précisé, mais surtout, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, le jeûne n'était pas exigé. Ce n'était pas un temps où on exige aux gens. C'était une chose volontaire. Le texte clé dans l'Ancien Testament concernant le jeûne, c'est Ésaïe 58. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder cela avec moi. Ésaïe 58, verset 5. Et là, c'est Dieu qui leur montre le sort de jeûne que Dieu désire. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme, couvrir la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et le cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jour agréable à l'Éternel? Alors il était en train de poser, c'est ça ce que je cherche? Mais voilà, il dit verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et qu'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » La clé pour le jeûne, c'était pas simplement de s'humilier devant les autres, mais c'était même un cœur de penser même aux autres pendant ce jeûne. Même de laisser la nourriture pour donner ça aux autres. Laisser la nourriture pour nourrir les autres. C'était ça quand même, un pain que Dieu a voulu, un jeûne que Dieu a voulu. Quand nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons plusieurs fois où les gens sont en train aussi de faire le jeûne. Nous voyons Anne qui servait Dieu par des jeûnes et des prières dans Luc chapitre 2. Nous voyons aussi que Jésus a encouragé la prière et le jeûne pour une certaine sorte de démon qui ne sort pas facilement. Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours. Chose intéressante, quand Marc a parlé de ce temps, il n'a pas dit que Jésus a jeûné, il a dit simplement que Jésus était tenté pendant 40 jours dans le désert. Cela nous indique que ce temps de 40 jours dans le désert, l'importance de cela, ce n'était pas le fait qu'il a jeûné, c'était le fait que le Saint-Esprit lui a poussé même, selon Marc, d'aller dans le désert. C'est-à-dire, Jésus a eu dans son cœur un désir ardent d'aller dans le désert parce qu'il savait que Satan va lui tenter. Et tout ce temps de tentation pendant les 40 jours, c'était pour nous montrer que Satan n'avait pas de pouvoir sur Jésus. Jésus n'a pas cédé aux tentations. Plutôt, il a vaincu le diable. Et c'est plus tard, même Jésus a dit, concernant le prince de ce monde, il a dit, il n'a rien en moi. Alors, ce 40 jours de jeûne, oui, mais ce 40 jours de tentation de Jésus, c'était un temps pour nous montrer au commencement de son ministère que Satan n'a rien en Jésus. Nous voyons aussi que Jésus a parlé et nous pouvons regarder un autre texte qui est central concernant le jeûne et ça c'est Matthieu chapitre 6. Regardons ça avec moi. Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu 6, Jésus parle de ceux qui veulent pratiquer leur justice devant les hommes. C'est verset 1 qui est le verset contrôleur pour toutes les premières versets. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alors, pratiquez votre justice. Vous pouvez pratiquer la justice dans trois différentes manières et Jésus va mentionner lorsque tu fais l'aumône, versets 2 à 4, il va leur montrer voilà ce qu'il faut faire et ne pas faire. Verset 5, il dit lorsque vous priez et voilà dans verset 16 à 18, il dit lorsque vous jeûnez. C'est là où nous voulons regarder. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnaient. En vérité, je vous l'ai dit, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oui, Jésus dit « lorsque vous jeûnez », c'est-à-dire ce mot indique qu'il y aura un temps où les chrétiens vont jeûner. Mais il disait spécifiquement « ne prenez pas une air triste ». Ça indique que lorsque nous jeûnons, c'est une chose secrète, qu'on ne fait pas cela pour être vu. Pour être vu des autres, certains gens ont mis même le cendre sur la tête. Ils n'ont pas peigné leur chevelure. Ils n'ont pas même se laver. Mais Jésus disait, non, ne prenez pas un air triste. Il parle des hypocrites. Les hypocrites étaient ceux qui ont l'apparence de la religion, en dehors, mais rien dedans. Un désir de montrer aux autres, soit par la prière, soit par les aumônes, soit par les offrandes, soit même par les jeûnes. C'était ça, un aspect de se vanter devant les autres. Mais Jésus a dit, voilà, ils ont leur récompense. Ils ont voulu que les hommes regardent et voilà, ils ont eu cela, les gens les regardent. Mais Jésus a dit, parfume ta tête, lave ton visage. Voilà, ce sont des actions normales. Ce sont des choses qu'on fait normalement dans cette époque. Ils n'ont pas voulu que les gens tire l'attention sur ce qu'ils étaient en train de faire. Il a dit que voilà ton Père. Deux fois, on voit dans le texte, ton Père. Ça souligne leur relation avec Dieu. Et la raison que nous jeûnons, c'est pour notre Dieu. C'est la même chose pour les offrandes, c'est la même chose pour la prière. Alors, la seule autre fois que nous voyons le jeûne, dans les évangiles, c'est dans le passage que nous allons voir ce matin. Et bientôt, nous allons voir la raison pour laquelle Jésus a dit ses disciples ne jeûnent pas. Juste pour vous donner un aperçu aussi des autres passages dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, nous avons l'exemple de Saul. Juste après être sauvé, il a pris le temps de jeûner. Nous voyons aussi les leaders à Antioche. Ils étaient désignés Et Paul et les autres leaders ont voulu prier pour eux et aussi les leaders d'Antioche avant d'envoyer Paul dans le voyage missionnaire. Ils ont jeûné, ils ont prié. Alors, après le livre des Actes, chose intéressante, les épîtres ne disent aucun mot concernant les exigences ou l'application du jeûne. La seule fois où nous voyons le jeûne, c'est quand Paul a dit que vraiment, dans son ministère, il avait eu beaucoup de fois où il a fait les jeûnes. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 5, il a dit qu'il était sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. C'est-à-dire, c'était son habitude dans son ministère de faire cela. Et aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 11, encore, il a dit ceci, « J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. » Et il continue à dire tout ce qu'il a subi en tant qu'un serviteur, en tant qu'un apôtre. Enfin, il y a des temps de jeûner, il y a des temps de chercher Dieu à travers le jeûne. Mais ce que Dieu cherche, c'est notre cœur et pas simplement ce qu'on fait à l'extérieur. Le jeûne est important. Certains gens pensent que voilà, le jeûne, c'est le moyen efficace d'avoir nos prières répondues. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La Bible enseigne que c'est simplement la prière qui est essentielle. Même Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit ceci, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. » Alors, la grande efficacité, c'est simplement la prière d'un juste, la prière de quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu. Est-ce que le chrétien peut jeûner? On peut poser cette question, mais bien sûr. Mais on ne peut pas exiger un jeûne. Comment est-ce qu'on peut jeûner? Mais en secret, devant Dieu, pas devant les hommes. Vous pouvez jeûner un repas, plusieurs repas, mais c'est entre vous et Dieu. Il n'y a pas une formule, il n'y a pas une exigence. Revenons dans Marc chapitre 2 maintenant. Marc 2, et nous allons voir la réponse à Jésus à cette question. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ce qu'il faut souligner ici dans Marc chapitre 2, à partir de verset 18, c'est le fait qu'il y a deux différents groupes qui sont venus pour poser cette question à Jésus. Deux différents groupes. Nous voyons les pharisiens, c'est ça, qui souvent, les gens, les séparatistes, ils faisaient des choses extérieurement souvent, mais pas à l'intérieur. Nous voyons aussi qu'il y avait eu les disciples de Jean qui sont venus. Et bien sûr, Jean, c'était ce prophète qui avait un vêtement de poids du chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Et nous voyons que tout le monde est venu vers Jean et ses disciples étaient là en train peut-être aussi d'imiter leur maître, leur leader, Jean. Et il pratiquait alors le jeûne. Et même, nous avons vu déjà dans Marc que Jean était arrêté. Et peut-être c'était un temps de vraiment pour eux de chercher la volonté de Dieu, de prier que Jean soit libéré. Mais ici, nous voyons que Jésus va toucher le fond de la raison de jeûne. Les pharisiens, pour la plupart, étaient des hypocrites. Ils ont voulu juste avoir une apparence extérieure d'une marche avec Dieu. Mais à l'intérieur, Jésus a dit, ils étaient comme un sépulcre blanchi, qui paraît beau au dehors, mais qui est au-dedans plein d'ossements, de mort et toute espèce d'impurité. Ce qui était essentiel, ce n'était pas ce qui est à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce que nous voyons, Jésus n'était pas, ou ils disent, les disciples n'étaient pas en train de jeûner. Pourquoi? Verset 19, Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux les sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Alors, nous voyons Jésus en train de souligner un aspect tellement important par rapport aux jeunes. Et ça déroule autour de ce qu'il est lui-même. Et Jésus soulève cette image de l'époux pour deux raisons. La première raison, c'est simplement ceci. L'image de l'époux est celle du mariage, un temps d'une grande joie. L'époux qui devrait aller en mariage bientôt était toujours accompagné par ses amis. Je vous lire un passage venant d'un commentaire qui explique un peu ceci. C'est MacArthur dans son commentaire. Il nous dit la suivante. Dans l'ancien temps, une noce juive durait jusqu'à 7 jours et commençait dès l'arrivée de l'époux et de ses amis. Jeûner un jour lors du mariage aurait été tout à fait inconvénient et même offensant, au point que les anciennes règles rabbiniques en interdisaient la pratique. Les paroles de Jésus sont emphatiques. Aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Si un membre de l'entourage des mariés à une noce avait jeûné ce jour-là, il serait rendu ridicule et aurait fait preuve de l'insolence. Ils étaient donc aussi absurdes de penser que les disciples de Jésus auraient dû jeûner alors que le Messie était auprès d'eux. Voilà, MacArthur a raison. C'était un temps de fête, c'était un temps de joie. Vous pouvez imaginer leur joie, les miracles, les gens qui ont suivi Jésus et ils ont voulu voir les guérisons et Jésus les a guéris, Jésus les a enseignés. Et vous pouvez imaginer la joie des disciples qui étaient là. Ils étaient en train de penser au royaume de Dieu qui était là. Ils étaient en train de penser que même eux, ils seront avec Jésus dans ce royaume. Ils vont régner dans l'avenir. Ils étaient même en train de penser à qui sera le premier parmi eux. Et c'était un temps de joie pour eux. Et en plus de cela, Jésus était là, le Messie. Mais nous connaissons de nos jours maintenant ce que les disciples ne connaissaient pas. Jésus était plus qu'un simple Messie. Il était plus qu'un prophète. C'était même l'incarnation de Dieu. C'était lui, le grand médecin. C'était lui, Dieu manifeste en chair. Quelle joie pour le monde! Quelle joie était exprimée même à sa naissance! Vous vous souvenez, dans Luc chapitre 2, un ange du Seigneur apparut aux bergers et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Voilà l'incarnation de Dieu, un sauveur, un sujet d'une grande joie, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Plusieurs fois, Jésus a attiré l'attention sur son vraie identité dans les évangiles, mais les disciples ne comprenaient pas. Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous donnerez du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Qui peut demander aux autres de venir à eux, ceux qui sont fatigués et chargés? Si je vous disais, moi, pasteur Walter, je vous dis, venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous allez dire, mais pasteur, ça n'a pas de sens. Mais ça a du sens quand Jésus a dit cela, parce que c'était l'incarnation de Dieu. Jésus disait dans Jean chapitre 6, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Encore, Aucun homme ne peut pas dire les mots, mais Jésus, en tant que l'incarnation de Dieu, il pouvait dire cela. Écoute encore dans Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, les disciples de Jésus et même les pharisiens, les disciples de Jean, ils étaient là devant Dieu lui-même, devant l'incarnation de Dieu. Et Jésus, en mentionnant l'époux, il était en train de leur évoquer cette image de joie que lui-même, il est là au milieu d'eux. Et voilà, comment pouvait-il jeûner quand lui-même, le Sauveur, quand lui-même, le Messie, est là? Il y a une deuxième raison pour laquelle Jésus a aussi évoqué cette image de l'époux. Nous voyons que c'est Jean-Baptiste qui a même utilisé cette image. Si vous regardez dans Jean chapitre 3, nous voyons Jean-Baptiste qui a ses disciples qui ont posé ces questions même à Jésus, pourquoi des disciples ne jeûnent pas. Jean lui-même a parlé de Jésus et Jean a dit ceci dans Jean chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Alors Jean-Baptiste a affirmé cela, mais j'étais envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, l'éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà l'illustration qui devrait aussi évoquer dans le cœur des disciples de Jean-Baptiste cette idée que Jean a dit qu'il avait eu une grande joie dans son cœur à cause de la voix de l'époux. Et à cette époque, les disciples de Jean posaient la question, mais écoute, Jésus baptise. Tous les gens étaient en train de venir vers lui. Et Jean-Baptiste a dit, écoute, Jean-Baptiste a dit, écoute, c'est lui qui est mieux, c'est lui qui est plus grand. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Parmi tous les prophètes, il n'y avait pas qui était plus grand que Jean-Baptiste. Il a compris ce que les autres n'ont pas compris. Que Jésus était le Messie et fallait réjouir d'une grande joie à cause de lui. Jésus a dit, le temps pour le jeûne viendra. Oui, ils seront séparés avec eux et ils seront tout tristes et il y aura le temps de jeûner. Mais Jésus a dit que même leur tristesse changera dans la joie. En terminant la discussion sur le jeûne, il évoque cette image de l'époux en disant que ça n'a pas de raison pour eux de jeûner. Et maintenant, il va aussi appliquer cela. Parce que à ce moment, les Juifs avaient dans leur pensée quelque chose qui n'était pas bien. Ils ont eu dans leur pensée une certaine manière de penser à Dieu et de penser à ce qui plaire à Dieu. Et ils ont pensé que voilà, c'est à travers le jeûne, c'est à travers les choses extérieures, c'est à travers les choses qu'on peut faire. Mais Jésus était en train d'annoncer qu'il y a une autre chose ici, qui est plus importante. Et il utilise deux illustrations pour parler de cela. Regarde versets 21 et 22. C'est là, après cette discussion sur le jeûne, il dit ceci, « Personne ne coude une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie de vieux et la déchirure sera pire. » Et il utilise une deuxième illustration. Il parle de personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Alors, on pose la question, mais pourquoi Jésus soulève ces idées juste après avoir parlé du jeûne? Il était en train d'évoquer une image dans leur pensée, une image venant des vêtements, une image venant des outres, une image qui dit que voilà, quand vous avez quelque chose de neuf, n'essayez pas de mélanger ça avec le vieux. Et tout cela, c'était pour dire que Jésus était en train de leur démontrer quelque chose de nouveau et il devrait changer leur pensée. Certaines de leurs pensées, oui, peut-être correctes, mais maintenant, ils devraient changer complètement leur idée de ce qui peut plaire à Dieu et leur idée de ce que c'est même le Messie. Le Messie Jésus-Christ était devant eux et il était en train de leur démontrer que c'est lui le moyen du salut, pas à travers les choses qu'on peut faire. Et pour eux, d'essayer de continuer à faire des jeûnes, à essayer de faire les choses extérieures pour plaire à Dieu, ça ne marche pas avec ce que Dieu était en train de leur montrer, avec ce que Jésus était en train de leur montrer. Le moyen du salut, ce n'est pas en ces choses. Il faut recommencer à zéro. C'est pourquoi il dit à la fin de verset 22, il faut mettre le vin nouveau dans les autres neuves. Et c'est ça l'image qu'il a voulu démontrer. C'est ça ce qu'il a voulu les encourager. Que voilà, il faut recommencer à zéro. Et nous pensons à maintenant, n'est-ce pas, à Nicodème. Vous vous souvenez, Nicodème, il est venu vers Jésus dans la nuit et il disait à Jésus, mais personne ne peut faire les choses que tu fais si ce n'est pas envoyé de Dieu. Voilà les miracles que tu fais. Et Nicodème a bien compris certaines choses-là. Mais, chose intéressante, Jésus lui a dit, mais écoute, tu ne peux pas même voir le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Et il a voulu que même Nicodème qui comprenne quelque chose, qu'il faut recommencer à zéro dans vos pensées. Recommencer à zéro et voir que voilà, il fallait complètement un changement de cœur pour être né de nouveau. Et voilà, c'est ça l'image que Jésus a voulu laisser avec les gens. Ils avaient une conception de ce que c'est le Messie. Ils avaient une conception de ce que c'est le salut. Mais il fallait changer cela. Il fallait complètement changer cela. Il y a deux réponses. Une réponse, c'est d'accepter cet enseignement. L'autre, c'était d'endurcir le cœur. Et c'est ça ce qui s'est passé avec les pharisiens. Ils ont endurci le cœur au point où Jésus était étonné de leur endurcissement. Et comme cette image où le vin nouveau qui rompt les outres, c'est ça qui va se passer. Eux qui vont essayer de continuer dans leur pensée, ça ne va pas. Ils seront enfin jugés à cause de cela. Mais nous avons la réalité, nous avons la vérité devant nous. Et juste pour clôturer, j'aimerais nous encourager. En ce qui concerne les choses extérieures, les choses qu'on peut faire dans la religion, ce sont des choses qui sont bien, mais cela ne peut pas mériter notre faveur devant Dieu. Il y a une seule personne qui peut nous aider à avoir la faveur avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous voyons dans le monde entier, il y a les gens qui pensent que c'est à travers les bonnes œuvres qu'ils peuvent être sauvés. Ils sont en train de mettre Jésus dans ce sens que voilà, Jésus va m'aider à faire les bonnes œuvres et voilà, je serai sauvé par mes bonnes œuvres, par le baptême, par les autres choses. Mais Jésus n'est jamais venu pour aider les gens à voir la vie éternelle à travers les œuvres. Il est venu pour mourir pour leur péché. Il est venu pour être leur pain de vie, pour être celui qui est venu pour leur sauver. C'est lui le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et pour ceux qui sont là à l'écoute de ce message, qui croient que c'est vos bonnes œuvres qui peuvent vous sauver, ça ne va pas. Vous êtes en train de vouloir mettre vous êtes en train de vouloir utiliser une chose vieille qui ne peut pas vous sauver. C'est le nouveau que Jésus est en train de dire, c'est en lui qui est le salut. Le jeûne a sa place. Nous pouvons encourager le jeûne, mais on peut poser la question aussi, est-ce vraiment pour moi que vous avez tant jeûné? Dieu a posé la question. Est-ce vraiment pour moi? Tout ce qu'on fait, les choses extérieures, la religion, de la religion, la prière, les aumônes, le jeûne, voilà, faites ça pour Dieu. Faites ça en secret. Faites ça pour lui. C'est ça ce que Dieu cherche. Et faites ça sachant que c'est Jésus qui est là. C'est lui notre salut. C'est en lui ce dont nous avons, tout ce dont nous avons besoin. Voilà le texte aujourd'hui concernant le jeûne. J'espère que ça peut nous aider à comprendre ce qu'on peut faire aujourd'hui concernant le jeûne, mais plutôt, ça peut nous aider à savoir combien nous avons en Jésus tout ce dont nous avons besoin.